précédemment dans le supplément week-end.
On s'est pris des parpaings dans la gueule, on s'est relevé, et tu vois Dragon Ball, Son Goku, plus on prend dans la gueule, plus il devient puissant, bah nous c'est ça.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB. Bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre sur Radio FMR 89.1 MHz et sur le podcast de l'émission. Alors, c'est la journée des absents, Thomas n'est pas là aujourd'hui, il est excusé, du sport sera en retard. JB prend la relève de Thomas pour la chronique cinéma et le générique de la semaine a été excusé et remplacé par celui de la semaine précédente. Cela arrive, bonjour et bienvenue d'Ascritch avec vous jusqu'à 13h et des pelures et pas mal de cacahuètes. Aujourd'hui c'est une spéciale autour de la science-fiction et aussi comédie d'espionnage puisqu'il sera question donc de Quantum of Solace, le nouveau James Bond. On en parlera ça tout à l'heure bien évidemment. Autre info aussi importante qui sera plus développée plus tard par notre journaliste patenté, la mort de Michael Crichton, le créateur de Jurassic Park, de Urgence et de plein de romans principalement. Et ben on en parlera tout à l'heure, donc c'est du sport qui fera un dossier là-dessus. En attendant, ben si on parlait de ce qui est arrivé dans les kiosques, le Psychopathe, le seul magazine sans tabou. Et pour cause, puisque donc la revue de Caralis fait un spécial dossier Q en toilette bien sûr. C'est le numéro 203 de ce mois-ci, donc 4,50€ en kiosque avec bien évidemment des dessins de Ivars. Ivars est super connu en général pour les mecs qui se suicident. Il parle de frustrés et de fétichisme. Il y a Philippe Coudray dans l'affaire. Il y a bien évidemment Carly et sa famille. La morte, je vais y arriver. Avec son monsieur chapeau noir et plein de choses. Alors évidemment, si ça parle de cul, ça y va à fond, le rouge et plein d'autres. Il n'y a pas de tabou et je veux dire que c'est un numéro qui, à mon avis, devrait normalement se retrouver interdit d'affichage. Ils s'en foutent aux psychopathes. Ils sont à donf là-dessus et tant mieux. Et puis c'est vu bien évidemment avec leur look plutôt punk et complètement iconoclaste. Ça y va à fond, c'est assez rigolo. Accessoirement d'ailleurs à l'intérieur on a aussi des références assez importantes sur l'actualité bien évidemment sur les pages d'actu qui sont animées par Carly avec les références aux élections américaines et à l'époque de la publication bien évidemment ils étaient pas au courant du résultat final. Sœur Emmanuel, sa disparition sur le Parti Socialiste et sur les écoutes concernant Dieudonné. Bref, ça c'est dans la taille illustrée, c'est à l'intérieur du Psychopathe qui est donc arrivé, le numéro 203 est arrivé en kiosque. C'est un spécial Q, on va le demander à mon avis, il sera pas exposé, voilà. Bon en attendant mes compatriotes et mes chers collègues, vous savez qu'on a changé de générique avec cette nouvelle saison, comme d'habitude, vous allez me dire. Et hier, il y avait Noiza, qui est un DJ drum and bass qui était venu. Noiza, le morceau Gunter Pump, c'est ce qui a servi de base pour le précédent générique. Alors pour une fois, on va vous passer le morceau non remonté, non remixé, le morceau original en entier, Gunter Pump, par Noiza. Il était hier donc en set en mix au bikini avec MC Usman, d'ailleurs, que je salue. We'll be right back.
didn't really understand what was going on. It's just exciting for me. It's an adventure. You know, and I'm like, yeah.
Noise Gunter Pump. Et donc il était hier au bikini et honte sur moi, je n'y suis pas allé. Bah non, je savais que JB allait me spoiler le James Bond, et ben il fallait que j'aille le voir avant. Et puis voilà, ceci dit, si vous sortez aujourd'hui, et ben sachez que tout à l'heure en dédicace, à partir de 15h à la librairie Album, il y aura Loïc Malnati qui sera en dédicace. On le connaît bien évidemment pour Anaïr et pour le... mince, la série qu'il a fait aussi chez les Humanos, j'aurais dû vérifier, mais aussi pour son nouvel album Apocalypse dont on va discuter tout à l'heure, qui vient de sortir aux éditions Daniel Maguin. Samedi prochain, le samedi 15, à librairie Gibert, France du Château, du Chazot, excusez-moi, France du Chazot sera en dédicace pour Le Rêve de Meteor Slim, qui est sorti aux éditions Sarbacane. Et le même jour à la librairie Album, J.D., la dessinatrice chinoise de My Way aux éditions Chiaopan, donc qui sera en dédicace le 28 novembre. Nous serons au Toulouse Game Show à Balma en direct. Ça va être la joie. Alors moi, je sais pas comment on va faire, mais en clair, on va s'éclater. Ça te dit pas du sport de venir, il y aura plein de goodies, plein de jolies jeunes filles qui seront déguisées en lycéennes japonaises en train de danser à Dance Dance Revolution et tout ça.
Ouais, non, mais je dirais pas non, mais enfin bon, j'ai un emploi du temps un petit peu étriqué, on va dire.
Bon, tu passeras le lendemain ou la veille. On verra. Quatre sorties de bandes dessinées dont on va parler aujourd'hui dans le supplément week-end, sorties qui sont spéciales science-fiction et héroïne, si je puis dire. On va commencer, oh non, il n'y a pas d'héroïne dans celui-là. Dans le premier, c'est un scénario de Tiburce Auger et un dessin de Héberoni, De Vie, ça vient de sortir chez Daniel Maguin Édition. Et que dire, oh, Un rendez-vous dans 40 ans, après tout, quand la crise et le chômage auront disparu, que les violences des banlieues seront calmées et que les énergies renouvelables nous permettront de continuer à vivre l'insouciance du pétrole pas cher. La France, douce France, n'est plus une démocratie, mais une république en proie de virer vers une dictature raciale. Le parti fasciste détient déjà quelques postes clés du pouvoir. La milice a presque autant de pouvoir que la police. Il ne manque plus qu'à manipuler un illuminé pour faire cramer l'Assemblée nationale. Mais il se serait bien passé d'avoir le fils gâté pourri d'un de leurs principaux bailleurs de fonds qui décide de devenir un tueur en série et d'assassiner les parents de l'industrie. Pendant ce temps, le pétrole n'est plus qu'un lointain souvenir, la guerre gronde dans les pays qui ont encore des ressources, et on sent aux frontières la pression des réfugiés de 100 pays, de 1000 guerres, d'un milliard de misères. Théo d'Argentier, hérité de la célèbre famille qui possède le conglomérat Europetroleum, a décidé de faire le ménage parmi ses pourris à la cuillère d'argent. C'est lui qui tient le flingue et c'est lui le tueur en série de l'histoire. Or, le personnage va croiser deux vies. Une super musicienne black réunionnaise, Rose, et un journaliste d'investigation spécialisé dans la politique, Simon. Deux individus qui ont tout ce qu'il faut pour s'attirer la violence politique de ces temps troubles. Ajoutez que Rose, par sa couleur de peau, se fait de plus en plus souvent menacée par la milice et que Simon se sait malade, gravement malade. Théo va se lier d'une étrange amitié avec eux qui le mènera à un pacte concernant deux vies. Le trait pastel, texturé et inattendu, vu le propos, vu l'époque. Le problème, c'est cette absence un peu, je dirais, de côté tragique. C'est une ambiance qui est très claire, très lumineuse. Des lumières qui sont vraiment très, très détaillées. Du coup, l'histoire désespérée présente comme un voile de nostalgie et de douceur. Parfaitement opaque, je vais dire, à l'histoire. Ça désamorce complètement la crainte que devraient suggérer les fascis. Mais Toff avait parfaitement rendu cette impression dans la série Péché Mortel. De vie est plus dans une sorte de romantisme, de tueur idéaliste, une histoire belle et tragique, et finalement un peu déconnectée de son propre univers. Graphiquement, c'est très beau, l'histoire est prenante, et l'union des deux surprend, et c'est un peu ça le problème, c'est que les deux sont d'une qualité, on ne peut pas le nier, mais voilà, moi j'ai pas été convaincu, et là j'en ai été un petit peu triste. Mais on ne peut que féliciter le nouvel éditeur, Daniel Maguin, qui est un galeriste spécialisé BD à Paris, sous le nom de la galerie Daniel Maguin, que l'on voit d'ailleurs régulièrement dans l'émission Un Monde de Bulles sur la chaîne Sénat, qui propose un prix raisonnable ce super ouvrage. Après tout, c'est pas plus cher que ceux d'éditeurs concurrents. La reproduction est propre, le papier est plutôt généreux, et on apprécie d'autant mieux les illustrations de la dernière partie du livre, mettant en valeur le dessin des Boronis. À croire que cet album est un catalogue de planches originales et que le luxe est d'en raconter une belle histoire. Tiburce Sauger au scénario et Beroni au dessin, Devis. Ça vient de sortir chez Daniel Maguin, édition. Bon, ça vient pas de sortir, c'est sorti depuis un mois, j'ai dit une bêtise. Sylvain Ronberg au scénario, Nico Henrichon au dessin, Hostile, tome 1 sur 4. Hostile, c'est une nouvelle série, donc en 4 tomes. Le premier tome s'appelle Impact et vient d'arriver chez Dupuis. Rendez-vous cette fois-ci dans un siècle, un monde encore meilleur où la famine sera éradiquée, tout comme la guerre et la pollution. En fait, c'est tout l'inverse. Les corporations ont encore plus de pouvoir sur les états, le despotisme est partout. La nature a quasiment disparu à cause de la surexploitation de la planète. Chacun fait ce qu'il peut pour survivre. Hélène, par exemple, une mercenaire hors pair, capable de résoudre les pires crises par infiltration ou terrorisme, en fonction de ce que souhaite son employeur. Si Hélène fait ça, ce n'est pas uniquement pour l'argent, mais surtout pour sauver sa fille, Elisa, atteinte d'un mal incurable. Incurable pour qui ne dispose pas d'une immense fortune. Alors Hélène est devenue soldat de fortune. À la demande de son commanditaire, elle peut provoquer des attentats, organiser un vol de secrets industriels et que sais-je encore. Aucune existence légale, aucune couverture. Si par hasard vous veniez à être découverte, le département des ressources humaines niera avoir eu connaissance de vos agissements. Avec son équipe, elle est dépêchée en catastrophe en Chine où des ouvriers ont pris en otage le directeur d'une multinationale qui vont délocaliser leur usine. Son but, à Hélène bien évidemment, est d'exfiltrer les otages. Et tant pis s'il y a des coupeaux cassés, l'usine est déjà presque vide, les machines-outils sont remplaçables et les ouvriers allaient être virés, alors leur mort finalement importe peu. La situation est un peu délicate, mais en fait, quelques invités surprises vont la rendre encore plus intenable et la mission d'Hélène va vite devenir un cauchemar. Alors oui, une femme agent secret, dans un univers de science-fiction, on pense immédiatement au Major Kusanagi de la série Ghost in the Shell, à Nevis de Siage, dont je vais parler, à Carmen, issue de la série Travis, et à Ioni. Eh ben, en fait, vous auriez tort de passer à côté, car il se trouve que cette tétralogie est l'introduction d'une autre série qui nous avait à l'époque tapé dans l'œil. Alors attention, spoiler, je vous laisse le temps de vous boucher les oreilles en faisant un ouah 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 pendant 30 secondes.
Si tu veux, je le fais en direct.
Non, mais c'est pour ceux qui veulent pas entendre, quoi. Donc allez-y, faites-le pendant 30 secondes, et puis ceux qui nous écoutent encore, le feront en connaissance de cause. Donc je vous en prie, allez-y, hein. Non, c'est parce qu'il y a plein de fautes sur mon script, donc en même temps je corrige. Il se trouve qu'Hostile est la première partie de l'excellente série Orbital. Info qui n'est révélée au lecteur qu'à la fin de ce premier tome. Ce qui n'a rien d'étonnant car c'est le même scénariste, Sylvain Runberg. Mais avec Serge Pelé au dessin. Bon, ça va, vous autres, vous pouvez arrêter de faire l'andouille, le spoiler est fini, vous avez l'air un peu ridicule, quoi. Oh, oh, non, ça va, vous pouvez arrêter de faire moins, moins, moins et déboucher les oreilles, merci. Graphiquement, le dessin de Nico Henrichon est nerveux, précis, dynamique. Si vous avez lu The Pride of Baghdad, eh ben, imaginez-vous encore dans une situation de guerre, mais pas avec les mêmes grands fauves. On sent qu'il s'éclate à créer des ambiances de villes cosmopolites et dans les univers cyberpunk. Les ambiances techniques, les flingues et les engins lourds. Vivement la suite. Nico Henrichon, que l'on avait interviewé justement à propos de The Pride of Baghdad l'an dernier au festival d'Angoulême. Nico Henrichon, mon dessin, Sylvain Runberg au scénario. Hostile, le premier tome sur 4 s'appelle Impact et donc est sorti chez Dupuis.
Thank you.
JB est arrivé à temps, ça tombe bien, puisqu'on va parler d'une série que je sais que tu adores, Jean-David Morvan au scénario et Philippe Boucher au dessin.
Spirou.
Hélas, c'est pas avec Philippe Boucher, c'est avec Mono Hera, et le 50e Spirou est sorti, L'ombre du Z pour les 70 ans. Et ceux qui l'ont lu sont très très mitigés sur la série. Bon, faut dire aussi qu'ils sont un petit peu fait jeter par Dupuis. Donc ils ont dit, ah ouais, puisque c'est comme ça, bah on va faire comme Tom et Jean-Ry pour leur dernier Spirou qu'ils avaient fait. On va refaire le personnage à notre manière. Donc voilà, donc je l'ai pas lu, donc je peux pas le chroniquer pour l'instant. Là, il s'agit de Sillage, donc le 11e tome est arrivé chez Delcourt dans la collection Néopolis et s'appelle Monde Flottant. Et il aura fallu 11 tomes, 11 univers, tous différents les uns des autres, pour que Jean-David Morvan envoie enfin son héroïne dans sa vision du Japon, du pays qu'il admire tant, avec Philippe Boucher, au point que désormais ils y habitent tous les deux là-bas. Leur vision commune qui nous offre dans ce tome est celui du Japon féodal, plus exactement la fin de l'ère d'Edo, des incidents de la baie de Tokyo de 1865 qui allaient mener le Japon vers le retour de l'impérialisme et la fin du shogunat, plus puissant, tout puissant, et sa politique autarcique. La restauration Meiji, donc le retour de l'empereur aux affaires, ce fut aussi l'ouverture vers l'extérieur et la fin des samouraïs pour la constitution de la grande armée japonaise qui allait plus tard s'étendre sur l'Asie. Sauf que les auteurs vont en donner une vision critique, soit science-fiction, bien sûr, puisqu'on n'est pas sur Terre et à une époque complètement différente. Space Opera, surtout. Parce que Sillage est une série purement extraterrestre, où Navi, c'est la seule humaine. Ils avaient déjà fortement ébranlé, justement, Navi, leur héroïne principale, dans le tome 10, en faisant la vraie vilaine de l'histoire. Vilaine ! Du moins, selon la propre morale de l'héroïne. Là, c'est une Navis à la dérive, déboussolée, en plein chaos, ayant perdu amis, attaches, revenus et raison d'être. Et pour subsister, elle va se retrouver à accepter de basses œuvres d'intérêt privé, de devenir une mercenaire du futur et qui est mercenaire du futur. Ah tiens, encore une. Bref, Navis avait tous ses comptes gelés, ne pouvait tirer de revenus. De ce qu'elle ne sait faire, se retrouve comme agent de terrain d'un avocat célèbre, mais surtout un petit peu marron. C'est contre sa morale, mais elle n'a pas trop le choix. Et surtout, elle sait que c'est sur cette planète médiévale qu'est actuellement en Bobo, son dernier ami, et dans Tsaldra. Dans les sales kimonos. L'évolution du personnage est franchement intéressante. Navis devient adulte, désabusé, beaucoup moins rentre-dedans. Morvan et Boucher jouent d'ailleurs sur le perçu des premiers tomes avec leurs lecteurs non avertis, ce qui crée une complicité, qui font garder son souffle à la série. La découverte d'un nouvel univers par les deux auteurs très prolifiques reste un plaisir, mais si vous n'avez pas aimé la série jusque-là, il n'y a aucune chance que vous accrochiez à cet album.
Au revoir.
Jean-David Morvan au scénario, Philippe Boucher au dessin, Sillage, donc le 11e tome s'appelle Monde Flottant, et c'est sorti dans la collection Néopolis chez Delcourt. We'll be right back. termine les chroniques bande dessinée avec Loïc Malnati, qui est tout à l'heure en dédicace à la librairie Elbonne. Apocalypse, donc, c'est sa, c'est son nouveau bouquin. Les plus grands naissent posthumes. La tagline est déjà assez glaçante. C'est le bouquin qui est là. Oui, celui-là, tu peux pas le manquer. Ça vient de sortir chez Daniel, chez okay. Daniel Maguin, édition. Et de suite, on pense à un autre dessinateur, surtout par le, par l'usage des tons noirs et rouges, bien évidemment. On pensera de suite à des bouquins d'Olivier Ledroit.
Requiem et compagnie, c'est ça?
Ouais. Ouais. Bienvenue dans le futur, où le temps aura lavé les péchés du monde, où l'humanité ne tuera plus, mangera à sa faim et où... Non. Finalement, bienvenue en Apocalypse. L'enfer est arrivé sur Terre et l'humanité va bientôt mourir. Elle a trouvé des prédateurs à sa mesure dans les nuits les plus sombres, celles de son péché. L'humanité se fait dévorer par des criquets infernaux, des papillons voleurs d'âmes et autres bestioles répugnantes. Ces légions de monstres sont menées par des démons, des humains volontairement sacrifiés, qui sont les généraux de cette destruction méthodique de l'humanité. Mais il existe des poches de résistance, des zones où les hommes arrivent à contenir cette guerre affreuse, surtout grâce au talent de guerriers d'exception, comme cette jeune femme, Bailly, qui combat sans relâche des monstres, arrivant à les tuer grâce à son savoir-faire dans le maniement des armes blanches, et donc empêchant le gouffre, le refuge, le dernier ultime refuge de l'humanité, de tomber. Bailly fait ça pour son fils et sa mère. Bref, une femme battante qui combat plus pour quelque chose de personnel que pour le bien commun. Une mercenaire des temps futurs et qui... Non, mais attends, c'est pas vrai, là. Attends, on a fait sillage et on a fait... Bon, d'accord, on a fait hostile. Bon, bah, encore une mercenaire, voilà. L'impression que l'on a en lisant ce bouquin, c'est qu'on a retrouvé des planches fabuleusement léchées de Loïc Malnati. Un degré de précision que j'avais pas vu depuis sa série Anaïr chez Delcourt, et où j'étais super heureux d'ailleurs d'avoir pu admirer les planches originales quand ils avaient exposé à la librairie Album à l'époque, justement. Et en fait, on songe immédiatement Olivier Ledroit. C'est dire tout le bien que je pense de cet album. L'ambiance oscille entre la guerre des tranchées, celle de la Seconde Guerre mondiale et bien évidemment l'apocalypse totale. La caractérisation de certains personnages est absolument géniale, le scénario est bien construit et les planches sont graphiquement fabuleuses. On sent de suite que les dessins ont plaisir à s'exprimer sur ces bouquins et on ose à peine imaginer la paire de qualités qu'on aurait eu chez d'autres éditeurs finalement que chez Daniel Maga. Mais à la fin de la lecture, il manque quelque chose. On le ressent très fort et je reste sur ma faim et je cherche encore quoi. Et pourtant, c'est évident, il manque une suite. Cela m'étonnerait fortement que Loïc reste sur un one-shot. C'est évident qu'il vient de commencer là une série. Mais en l'absence d'une quelconque indication de numéro, ça se demandait si on va rester sur notre fin. Celle du plaisir d'avoir lu une excellente introduction. Ah, attendez, là. Je tourne la page et... Ah bah voilà ! Il y aura un tome 2 ! Bonheur, si je puis dire ! Apocalypse, le premier tome s'appelle Les plus grands naissent posthumes. C'est sorti chez Daniel Maguin Édition, donc la maison d'édition lancée par le galeriste spécialisé bande dessinée. Loïc Malnati est en dédicace tout à l'heure à partir de 15h à la librairie Album. Donc je vous invite à en profiter, à aller le rencontrer. Je ne sais pas s'il va présenter ses planches, mais quand même, c'est super léché graphiquement, c'est absolument superbe. Midi 34 dans le supplément week-end. Un vieux morceau, mais je l'adore, il est magnifique, c'est une petite merveille. Charlie Basset avec Propellerheads, History Repeating. Yeah. Et on retrouvera le duo après.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Shout, a new style is growing.
pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
Cinéma vous est présenté en Dolby Mono Surround par JB.
Je n'ai rien prévu.
Tu m'avais dit que tu préparais sur James Bond.
C'était une blague. J'ai le texte sous les yeux.
Ah l'enfoiré. Ah le salaud.
C'est clair. Et c'est donc pour cela que je vous parlais d'une assez bonne surprise, le dernier Bond. Effectivement, Quantum of Solace est sorti. C'est la suite directe du dernier opus qui s'appelle...
Casino Royale,
bien sûr.
Pardon du.
Qui évidemment avec Daniel Craig, ne pas confondre avec celui de avec David Niven.
Qui est passé cette semaine sur France 4. Ouais. Un vrai bonheur.
Ouais.
Vraiment bien. Toujours donc avec Daniel Craig, le seul.
Les deux sont très.
Allez,
bien.
À la niche. Le seul bon qui fait ravaler la salive à ses prédécesseurs dans le même rôle. Bond essaie de trouver qui est derrière l'assassinat de sa chère étendre. Bon, entre parenthèses, hein, voir l'épisode précédent, et tant pis pour vous si vous ne l'aviez pas, si vous voulez pas le voir. Donc, l'histoire démarre là où Casino s'était arrêté. Un pré-générique en Aston Martin à fond les gaz. Bon, je ne vais pas trop vous en dire, je ne spoilerai pas trop l'intrigue. Le ton est délibérément non-stop action. Le scénario est même pas confus. Notamment perdu et franchement déconcertant dans la première partie, mais le but est de vous éblouir tambour battant. Post-scriptum, messieurs les caméramans, reprenez s'il vous plaît à faire des plans larges, à ne pas trop secouer votre steadicam si vous voulez être à la mode, certes, mais vous allez finir par nous filer la gerbe à force de bouger. Bref, le méchant cette fois-ci, c'est qui ?
C'est un Français !
Eh oui, forcément, n'est-il pas ? Et il est joué par Mathieu.
C'est avoir en VO parce que le dédain avec lequel il dit non, mais là je suis occupé, c'est fabuleux.
Je crois bien, mais malheureusement sur nos écrans français, ça va être délicat de trouver une.
Tu veux rire ? Salle 2 de Gaumont.
Oui, mais pas à la beige malheureusement.
Ah non, mais moi je te parle des vraies salles de cinéma.
Le Gaumont, oui. Donc joué par Mathieu Amalric. Méchant, effectivement, pas trop méchant. Un peu affable, mais forcément ordinaire.
Mais avec un putain de regard hallucinant. Et il est dedans, des fois.
Il est un peu perdu.
Je suis d'accord avec toi.
Il a avoué même qu'il n'avait vu aucun des Bonds précédents pour ne pas se faire influencer par les rôles. Je pense qu'il aurait dû, histoire d'étoffer un petit peu son personnage, parce que ça manque de nervosité de son propre chef. Après... Les autres sont tout à fait impeccables. Bref, donc j'en reviens à ce que j'ai écrit tout de même. Le dernier Bond n'est certes pas le meilleur cru, mais étonnamment se relève de ses défauts au fur et à mesure, tout en faisant comprendre qu'il n'est qu'une simple partie d'un tout. Du moins, on va dire un triptyque, car en fait, Craig a signé au départ pour 3 épisodes. On verra par la suite.
Enfin, de toute façon, c'est déjà c'est la suite d'un reboot. Et un reboot qui nous a tellement estomaqué que la relève était difficile. Et la comparaison ne pouvait se faire qu'au tout dernier Bond.
Mais la relève et le fait. Moi, je t'assure, la relève, franchement, le fait. Rien que pour la personne qui joue Bond ou celle que
le regard bleu
qui aime. Moi, de toute façon, je ne vous le cacherai pas que depuis ma vision de Life Cake, je ne vois pas qui d'autre peut mieux faire que lui.
Sincèrement.
Il a une gueule, il n'utilise quasiment pas de gadgets. Oui, Xavier, tous les produits affichés, bon, sont des Sony, propriétaires de la licence de James Bond, mais il y en a très peu. Donc, Exit Air, alias John Cleese qui remplaçait Q.
Oui.
S'il fallait voir le Bond qui est passé aussi en début de semaine pour s'apercevoir que Q n'est pas remplacé par un autre Q, mais par R. Voilà. Et on voit surtout un grand échange avec M, où on apprend que l'alias de M, c'est Mover, évidemment. Et on ne pense pas que ce soit de simples relations professionnelles. Mais on n'en dira pas plus. Bref, ça des potes, c'est très correct et ça le fait. Franchement, c'est du Bond.
Alors moi, personnellement, avis commun avec Thomas qui ne peut pas en profiter pour en répondre. Moi, c'est ça qui me surprend, parce que finalement, tu as été positif sur le Bond. Parce que nous, on a franchement été mitigés. Le générique ne casse pas des briques. C'est d'une platitude, aller des femmes lascives, etc. C'est un peu facile.
Visuellement ou
la musique, par contre, quand on vous dit que c'est Alicia Keys et
Jack White,
on est surpris. Mais finalement, c'est très bon. Le morceau est plutôt honnête.
Et ben moi, je vous dirais totalement l'inverse. J'avais écouté le morceau à blanc. La première écoute, j'ai trouvé ça à chier, mais parce que je l'avoue, c'est du pro Led Zepp et je n'aime pas du tout ce type de musique. Et je suis désolé, Duce, tu auras ton droit de réponse juste après. Et autant, je l'ai écouté, bon, bref, pour moi, c'est j'ai une impression de bâclée du film. Ils auraient dû.
Ouais, elle est assez générale, hein. Elle est assez générale. Il y a le la grosse ficelle de l'hôtel en plein désert. On vous laissera la surprise, mais alors que toutes les scènes de course-poursuite en voiture sont effectivement, comme tu dis, c'est chiant parce qu'il n'y a pas de plan large, etc. Mais on est dedans, c'est-à-dire c'est pas des voitures qui explosent. Quand elles tombent, elles explosent pas, point barre. Elles sont cabossées dans des états pas possibles, etc. Mais c'est plutôt réaliste par rapport aux autres, Bond.
Moi, je plains la Aston quand elle débarque au final du pré-générique. J'étais là, oh, pitié, pauvre voiture.
C'est-à-dire que, quand il y a une voiture qui se fait, qui se prend deux face un camion, ça explose pas comme dans le Bond des années 80 avec Timothy Dalton. Non, la voiture, elle se fait dégager sous le poids. Mm-hmm. Point barre. C'est assez physique, c'est assez physique, et les courses poursuites sur les toits et tout ça, ça reste impressionnant. Ça reste impressionnant jusque dans le son, parce qu'au bout d'un moment, ils sont dans un engin volant, ils sont avec des micro-casques. Et la prise de son, c'est la prise micro de ces casques-là, ce qui fait qu'on est dedans. C'est pas... on est plus dedans. Oui,
d'accord.
Je voulais éviter de le dire. Voilà, on est plus dedans. Je vais dire, c'est beaucoup moins, le Bond qui fait non, mais là je bouge pas, oui, mais là je maîtrise, etc. On est dans l'ambiance avec lui, c'est beaucoup plus flagrant. Côté négatif, justement, par rapport à la salle de cinéma, on est allé le voir, le son était très fort, tellement fort qu'il y a le limiteur qui a coupé. Alors, qu'est-ce que fait un limiteur qui coupe ? C'est ça. Voilà, et t'es là, tu fais mais c'est quoi ? Alors déjà le son est trop fort et puis après t'as la remontée comme ça, tu fais mais c'est quoi ce bordel ? C'est un petit peu dommage, quoi.
C'est dommage.
C'est dommage parce qu'il y a un travail graphique
il fallait voir
énorme.
Nous on avait aucun problème de son. L'image était nickel.
Non mais je veux dire de ce côté-là, il y a un travail graphique qui est très très bien. Un travail sur les couleurs, sur les ambiances qui est vraiment bon. Sur aussi les personnages, sur la psychologie des personnages, ça envoie pas mal, quoi. Bond, les personnes qui contactent, etc. Le cynisme de certaines situations. On se dit c'est dommage, c'est pas aussi fort que le premier, mais on sent que c'est le rebond, parce que ça se passe juste après. Rebond, oui, excusez-moi. Voilà. Mais après, le troisième va pourrait dépoter. Du moins, on l'espère.
Moi, je trouve vraiment le côté scénario vraiment très confus. Notamment la première partie où des fois tu dois faire des choses, tu comprends pas trop pourquoi. Et c'est heureusement en deuxième partie qu'on t'explique certaines choses. Mais tu as quelques certaines ellipses. Pourquoi le titre? Tout ça, ce sera voir dans
le 3. Alors, pourquoi le titre? C'est vraiment la bonne question. Alors, Quantum, on comprend que c'est le nouveau Spectre.
Oui.
Plus ou moins. Mais après, Quantum of Solace, eh bien, il y a eu un gros débat sur le net, à savoir qu'est-ce que c'était exactement. Il y en a qui disent, ben, c'est la petite portion d'espoir. C'est le Quantum, ouais. C'est la plus petite portion possible d'espoir. Voilà, bon.
On verra. De toute façon, sincèrement, je ne pourrais, je te l'avoue, je ne pourrais jamais dire du mal de James Bond. Je peux pas.
Ah! Pour une fois, il a un péché mignon.
Ah oui, je l'avoue. Mais parce que je trouve qu'il le fait beaucoup plus que parmi
tous les autres prétendants étaient ridicules à côté. Hein. Et on s'est dit, non, un Bond bleu, ça va être ridicule. Et quand on le voit passer après avec son regard bleu acier, c'est là tu fais, bon.
Déjà dans les films précédents, il le faisait...
Et il arrive à faire tomber les filles, mais alors qu'il est dur, il est brut de décoffrage, il les fait se retourner avec un seul regard, le petit sourire en coin, et c'est le seul moment où on les voit sourire, on se dit, wow.
Oui, après un petit coup de vieux quand même, hein. Il a de jolis cernes dans ce de Quantum.
Ah, il est pas mal. Hein. Et aussi une jolie fracture du bras, puisqu'il s'est pointé lors de la sortie officielle. Je vais dire avec le bras en écharpe, donc je vous laisse imaginer. Oui, oui, ça a été assez physique comme tournage. Aussi, belle et, une fois de plus, une sortie mondiale qui a été faite, à savoir qu'il est sorti en Angleterre, en France et en Suède le 31 octobre. Et il est sorti le 7 novembre, il est sorti hier en fait, excepté aux États-Unis où il sort la semaine prochaine.
Comme c'est triste.
Eh ben, la raison est toute simple, hein, ces élections présidentielles, ils craignaient que ça phagocyte un peu tout le plan promo.
Bon, on verra.
On verra, en tout cas, c'est très bon, et puis surtout, ça cloue un petit peu la période Bush et tout ça, le précaré et tout, c'est assez drôle. Je sais pas si Duce l'a vu. Non, pas encore.
Non.
Ça te tente ?
Ah, tout à fait, oui.
D'accord. Shirley Bassey, re-bis avec Propeller Heads, sauf que cette fois-ci c'est Shirley Bassey featuring Propeller Heads.
Goldfinger.
Elle avait interprété effectivement le générique de 3 Bond, Goldfinger, Diamonds Are Forever et Moonraker. Là c'est un remix de Goldfinger, sachant que l'actuel Bond avait dit qu'il aimerait bien que ce soit Shirley Bassey qui fasse
un nouveau morceau
pour.
Ça serait bien pour remplacer Alicia Keys et
Alicia Keys. Je suis d'accord avec toi. Le supplément week-end sur Radio FMR. Bonjour et bienvenue pour si vous nous rejoignez. Et midi et 50 minutes. We'll be right back. Bien évidemment, c'était la grande Shirley Bassey, Goldfinger mixé par les Purple Reds. Du sport.
Oui.
Eh ben, je crois qu'on va verser une petite larme de crocodile.
Eh ouais, comme c'est moi qui fais les nécros comme d'habitude et tout. Alors bon, j'ai quand même un peu les boules, tu vois, parce que bon, je me suis dit pour rehausser un petit peu mon les caractéristiques de mon métier, spécialiste en nécro et tout, j'aurais préféré quand même quelque chose de plus reluisant, genre, tu vois, Paul Newman. Mm-hmm. Mais bon, là, ça commence à faire un peu daté quand même.
Et tu peux ressortir Paul Newman, franchement.
Ouais, non, là, bon, ça fait quand même presque un mois, non, faut pas pousser quand même. Mais il y a Michael Crichton, donc, ou Crichton, hein, si on le prononce à l'anglaise, donc,
quoi, un vieux dinosaure comme lui?
Un vieux dinosaure comme lui, ouais, on passe plus que ça, hein, 66 balais, hein, né en octobre 42 à Chicago, dans l'Illinois. Alors bon, ça on le sait, il était toubib au départ, hein, avant de commencer à écrire. En fait, il a fait ça un petit peu, conjointement, sa première sortie d'ailleurs. C'est sous un pseudonyme, un petit polar sous pseudonyme dans les années 60. Mais il a quand même été diplômé hein, de la Harvard Medical School en 69, hein, MD, c'est-à-dire Medical Doctor.
C'est-à-dire un docteur qui peut exercer en cabinet.
Voilà, c'est ça. Mais il a préféré faire de la recherche et également donner des cours. Hein. Il donne des cours d'anthropologie à Cambridge University. Et il a publié pas mal d'articles d'ailleurs dans le New England Journal of Medicine, dans les revues spécialisées hein, sur différents articles et sur différents sujets très très divers, à tel point que bon, la communauté scientifique lui rend quand même un hommage en 2002. Avec à l'occasion de la découverte d'un nouvel ankylosaure, hein, eh bien, il est nommé Christosaurus Bowling. C'est pas des conneries, c'est vrai. Non, non, mais écoute, quand même, quoi, tu vois, c'est quand même une reconnaissance, une preuve de reconnaissance assez remarquable. Morf. Alors, parallèlement donc à son occupation principale, hein, c'est-à-dire la science, la recherche, la médecine, il écrit. Et donc, outre le premier bouquin dont je vous ai parlé, mais qui n'a jamais fait l'objet d'adaptation hein, et qui est sorti sous un pseudo, ce qu'on connaît le plus, c'est le The Andromeda Strain, sorti en 69 et adapté à la télé, au cinéma 2 ans plus tard, en 71, par la Universal. Hein, le mystère Andromeda, bon,
gros budget quand même pour l'époque, mais
ouais, 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 mais moi, mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu zarbi, empoulé et bon, chiant pour déjà
non,
à l'époque.
Non, mais des lourdeurs d'écriture déjà dans le roman, ouais, bah, ouais. Elles apparaissent à l'écran, c'est très fort.
Ensuite, un peu plus tard, The Terminal Man en 72 adapté.
Je tiens à signaler qu'il y a une mini série qui est prévue.
Oh non.
Autour de The Andromeda Strain. D'ailleurs, je ne sais plus qui est le producteur.
Eh ben, ça promet, mon gars.
Il veut pas faire un biopic plutôt sur Newman.
En 72, The Terminal Man, adapté en 74 par la Warner Bros. Mmh. En 75, The Great Train Robbery, l'attaque du grand train.
Ça, c'était pas mal.
En 76, Eaters of the Dead. En 80, Congo, adapté en 95 par la Paramount. Hein, c'est un des seuls d'ailleurs où il s'est pas occupé de
l'adaptation.
L'adaptation, il est uniquement producteur sur le film, hein, c'est-à-dire bon bah il ramasse les pépettes, quoi, les royalties et tout ça, c'est tout. Mais, il donne un petit peu son avis, c'est tout. Sphère en 87, pareil, hein, qui a été adapté, mais avec juste lui coproducteur, enfin truc Jurassic Park.
Oui, c'était lui.
Ouais.
Mais
Jurassic
c'est bien Park, celui-là.
C'est un des correct, des rares corrects dans la filmo de Craig.
Alors Jurassic Park donc en 90, Lost World en 95 est adapté par l'Universal en 97. Au niveau filmographie, là c'est un
97?
Petit peu plus arbitraire. 97, ouais.
Westworld.
Lost World.
Ouais, j'ai eu peur.
Alors Westworld donc justement de
Monde
donc,
Ouest.
Monde Ouest hein, en français quoi. C'est en 73 donc.
Réalisé par lui
hein donc. Hein, alors c'était assez bizarre. Moi j'aime bien le film de toute façon. Quoi,
c'était chouette. Mais c'était un bon.
Non,
film.
Pas de problème. Ensuite il y a Coma en 78 à plus dans son domaine de prédilection, savoir la médecine. L'attaque du grand train d'or, le Great Train Robbery en 79 avec Sean Connery et tout. Bon film aussi hein. Mmh, il faut bien dire. Looker aussi, celui-là.
Qui en fait se passe, c'est un film plutôt historique. Hein,
tout à fait.
C'est un polar, mais qui se passe
au 19e,
voilà.
Ouais, ouais.
Très bonne adaptation aussi.
C'est bien foutu, quoi, de toute façon. Looker aussi, qui est pas dégueulasse, hein, en 81. Runaway, l'échappé du futur, avec Tom Selleck et tout, avec ses moustaches et tout, c'est génial. Excellent.
Nardissime, celui-là.
Excellent. Mais
c'est
celui-là,
bien, ça.
Non,
c'est un nanar.
franchement, c'est vraiment bien, quoi. Non,
c'est un nanar.
Je te le dis avec, regarde la banane que j'ai, tu peux me croire sur parole. Ensuite, Physical Evidence en 89, Jurassic Park donc en 93.
Physical Evidence qui est adapté sous le titre, sous le vieux film. Zut, je l'ai marqué dans le mail.
Ah, non, mais là, je peux pas consulter.
C'est très gentil. Non, c'est harcèlement.
Voilà. Twister, donc Jurassic Park en 93. Twister en 96. Sphère en 98 et le 13e guerrier en 99, voilà, en tant que coproducteur responsable de la boucherie charcuterie.
Oui, on peut en dire du mal encore ou on va se taire?
Eh ben non, tu dis ce que tu veux là, il y a pas de problème hein. Moi j'ai terminé mon petit truc et tout donc aussi. Il est né. Alors il faut aussi signaler que dans le domaine de la télé, c'est un mec qui est co-producteur et co-réalisateur de la série par réalisateur si je crois qu'il a signé quelques une poignée d'épisodes, on va dire.
Il a dû faire ça.
Mais c'est la série Urgence, IR, donc.
Désolé, c'est parti.
Ouais, non, mais c'est normal.
C'était le limiteur de Xavier.
C'est une des séries pour lesquelles il a obtenu pas mal de awards, hein, que ce soit au niveau scénaristique, c'est-à-dire des prix littéraires, les prix de la télé, c'est-à-dire il a reçu un Emmy également pour cette série. Ça va, quoi. Ça lui a ramené quand même pas mal d'honneurs, il faut dire. Malheureusement, ouais, alors ça c'est le jeu de mots facile et tout. Bon, bah ok, hein, c'est pas ce qu'il a sauvé, de toute façon, vu qu'il est mort du cancer à l'âge de 66 balais. Alors un peu de télé, ça te tente ?
Ouais. Et fabuleux, le prisonnier, mais alors ça a pas pris une ride. Ah non, mais là on était scotché. Même pour une fois, le crop en 16-9 n'est pas trop gênant. Ça a été retravaillé proprement.
Bon.
Ah ouais, fou. Ah, ce soir on est devant. Rien à foutre. Foot ou pas. Non, pardon, New York, section criminelle ou pas, m'en fous.
Dommage, hein, dommage, pourtant des sujets intéressants. Dans cette 9e saison.
J'attends
d'entendre les perches. De New York Unité Spéciale. Je n'avais pas spécialement programmé pour aujourd'hui. Par contre, deux nouveautés inédites complètes apparaître. Bah, demain. C'est demain la journée des inédits. Avec tout d'abord sur TF1 qui poursuit sa politique de diffusion donc de ses achats relativement récents. Et après Gossip Girl, on a droit à Chuck qui démarre demain sur TF1 demain après-midi dans la case 14h15.
Mais c'est
15h,
la poupée de sang.
Hein,
Chucky.
Non, Chuck, pas Chucky. Du tout. Une série créée par Chris Fedak et Joe Schwartz, hein, qui sont également producteurs avec Mac G, ouais, vous connaissez un petit peu, hein, Supernatural, Newport Beach, donc la série créée par Joe Schwartz qui a également créé Gossip Girl qui est diffusée tous les samedis après-midi en ce moment sur TF1 à 16h40 ou 16h30, hein, qui est également une des nouvelles acquisitions de TF1 et qui marche pas trop mal, il faut dire, hein. Bon, bah, elle est quand même casée dans une espèce de trou de programmation que j'aime pas du tout, quoi, en fin d'après-midi, milieu de la fin du milieu, enfin bon, c'est n'importe quoi.
Tout le monde est au
ça mérite, non mais franchement, c'est le genre de série qui mérite quand même une case de diffusion un petit peu plus décente, tout simplement quoi. Dans le cas de Chuck, donc sa première diffusion, bah, elle remonte à pas si longtemps que ça, puisque bon, bah, ça remonte à l'année dernière sur NBC le 24 septembre dernier. Alors l'histoire est très très simple, hein, c'est l'histoire de Chuck qui est un geek accompli quand même. Il travaille dans un magasin de micro-informatique, ses meilleurs potes c'est pareil, et il va se retrouver confronté à un monde qu'il ne connaît pas du tout, le monde du secret, le monde de l'espionnage, le monde de la politique. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, à la suite, eh bien, d'une rencontre un petit peu inattendue, eh bien, il va se retrouver bombardé et détenteur de tous les secrets de la NSA, de la CIA et tout, qui vont toutes les bases de données, quoi. Donc, il va obtenir, bah, il va pouvoir s'en servir. C'est lui là qui va devenir la base de données ultime, hein, de toutes les associations et de toutes les toutes les associations.
Il va devenir le prisonnier.
Ouais, le prisonnier de toutes les agences de gouvernement, hein, qui sont là et qui sont en train de faire la guerre à tout ce qui bouge, du moins sous la période Bush. Et donc, il va être un petit peu chapeauté, parrainé, on va dire, hein, par un agent du FBI ou de la NSA, donc qui va lui permettre de faire la connexion entre les deux mondes. Alors ça va être un petit peu marrant de voir s'affronter les deux mondes, hein, c'est-à-dire le monde des geeks, avec dans cette série beaucoup de références, hein, à l'univers geek, avec des références à des séries comme Star Trek, plein de petites choses comme ça. Très sympathique.
Mais général, les geeks, ils sont pas très pro surveillance, hein, tu sais.
Ouais, non, mais c'est justement, ça va être marrant de voir un petit peu la confrontation entre ces deux mondes, avec donc dans le rôle de Chuck, Zachary Levi, qui vit en fait dans un petit appart avec sa sœur, hein, interprétée par Sarah Lancaster, Ellie, sa sœur qui est médecin. Le petit ami d'Ellie, hein, c'est Captain Genial, un des meilleurs potes de Chuck, qui est joué par Ryan McPartlin, et également le meilleur ami de Chuck, Morgan, ils bossent ensemble dans le même magasin, interprété par Joshua Gomez. Alors du côté des agents, des force gouvernementale. On a la très blonde et très jolie Sarah, interprétée par Yvonne Strahovski, et le parrain donc qui va chapeauter un petit peu Chuck pour le compte de la NSA, c'est John Casey, interprété par un des meilleurs Baldwin, Adam Baldwin.
Ouais. Ah, le grand, le seul, ouais, le magnifique.
Ouais.
Le producteur alors, dans selon, Sortie Rock.
Alors, selon Josh Schwartz lui-même, hein, Chuck est le croisement parfait entre Alias et The Office. Donc, ça vous situe un petit peu le niveau.
Je m'inquiète, hein.
Ça vous situe le niveau. Ouais. Il place le niveau vachement haut quand même, hein, le père Josh Schwartz. Mais comme il est capable de trucs aussi bien que Newport Beach, ça vaut le coup quand même. Voire également Gossip Girl, quoi. Quoique Gossip Girl, c'est quand même un petit peu ciblé. Alors comme autre personnage un petit peu plus secondaire, on a quand même Tony Todd. Ouais, Tony Todd dans le rôle du directeur de la CIA. 13 épisodes seulement pour cette première saison de Chuck, parce qu'il y a eu la grève des scénaristes. Et donc, ils ont préféré en faire que 13, mais qui tiennent la route plutôt que d'en faire d'autres. Et puis, mais par contre, une deuxième saison a été commandée par NBC et elle comptera 22 épisodes. Donc ça s'appelle Chuck, c'est sur TF1 demain à partir de 14h15. Allez, une deuxième nouveauté inédite qui nous vient de Jonathan Lisko, scénariste donc et réalisateur de et créateur de cette série, qui a été diffusée par Fox TV. Il a également vu le problème de la grève des scénaristes. Eh bien, il n'a eu que 11 épisodes pour cette première saison de K-Ville. K-Ville, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la ville de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. Et donc, il y a eu des graffitis un petit peu partout dans Nouvelle-Orléans et tout. Il y a marqué K-Ville, la ville de Katrina, Katrinaville en fait, hein, pour renommer un petit peu la Nouvelle-Orléans. Et ça va être selon un schéma plus classique polar, hein, qui va suivre les aventures de deux flics en bagnole, en uniforme, hein, qui sont après le passage de Katrina, ben, chargés de surveiller un petit peu la ville, parce qu'il en reste. Pour éviter qu'il y ait trop de pillards, trop de débordements, trop de ceci et de cela, dans l'après-Katrina, la nouvelle.
Sachant qu'il y a un tiers qui n'a pas pu partir et qui était sur place, ça laisse dire. Voilà. Ça laisse
alors, dans les rôles de ces deux flics, on a Anthony Anderson, qu'on avait déjà aperçu dans The Shield, et qui va bientôt débarquer dans New York District, ni plus ni moins, mon gars. Cole Hauser, ouais, Cole Hauser, qu'on avait vu dans Urgence, entre autres, et donc qui joue le rôle de ce deuxième flic, également Tony Cypress, Black Shields, et c'est diffusé, ça c'est la bonne nouvelle. Donc ce sera fait dans l'ordre, avec la version originale, c'est magnifique, version multilingue, sur Série Club, demain soir à partir de 20h45, les deux premiers épisodes de K-Ville. On a également au programme les épisodes manquants de la cinquième saison de CSI Miami. On se demandait où ils étaient passés, tu sais. Alors déjà, ils nous faisaient des diffusions de CSI Miami. Alors, ça allait le mercredi, ensuite le samedi, ensuite le mardi. Là, ce sera mardi prochain à 20h50.
Le retour du grand concours d'enlevage et de refilage de lunettes de soleil.
Le retour. Donc... avec donc les épisodes qui manquent quoi de cette cinquième saison, qui est pas trop mal, moi je trouve quoi, ça vaut le coup quoi, de toute façon quoi.
Pourtant tu n'aimes pas les experts?
Non.
Ouais mais bon,
les experts Miami,
ça se regarde quand même quoi, tu vois.
Ah, moi j'ai arrêté, hein.
Ah bon.
Alors moi, les experts Las Vegas, ils reprennent ou pas? Parce que
mais ils ont terminé.
Séries de Las Vegas sont terribles. Elles sont de mieux en mieux.
Oui. Mais là,
je trouve que malheureusement, à part la partie concernant le tueur à la maquette, c'est que les épisodes parodiques qu'on a retenus.
Détrompe-toi. Et attends la suite.
D'accord, bon, je veux bien croire.
Alors, une dernière série policière et tout, mais là, c'est plutôt dans le genre la série policière du dimanche après-midi, juste histoire de bien digérer le repas du dimanche midi,
ouais, entre
de s'endormir devant, tu vois. Genre, le soir qui était réservé autrefois à Barnaby, voire à des trucs allemands. Là, hop, Deutschland Strikes Back avec... avec une série venue d'outre-Rhin. Alors c'est une série de mini téléfilm, hein, un petit peu à l'instar de j'allais dire Bergerac, non, n'importe quoi. L'inspecteur Barnaby, voilà quoi, hein, c'est pareil. Hein, donc, et là, ça s'appelle Les Enquêtes d'Agathe Highland, une juvénile et bien portante septuagénaire, 70, voilà. septuagénaire.
Oh, une Miss Marple!
Voilà, t'as tout hein. compris, c'est une Miss Marple d'Outre-Rhin, hein, interprétée par Ruth Drexel, qui est également très très vieille, vu qu'elle a passé l'âge de 70 balais. Ça s'appelle donc Les Enquêtes d'Agathe Highland et c'est diffusé demain soir, demain après-midi, pardon, sur France 3, à partir de 13h25. Le téléfilm s'appelle Meurtre au monastère, ça date de 2005. Avec outre Ruth Drexel, on a également Hans-Peter Korf et Maximilian Krückel.
L'ambiance feutrée là. On reboit un coup. On balaye patiemment la table avec ses feuilles et tout. On fait des zigbouis. C'est JB. Non, il corrige mes fautes. Et il doit s'éclater.
Non, non, il prépare le speech.
J'allais
de fin.
Le dire. J'allais le dire, justement.
Eh,
hey. Hey, bien, bien. Bien.
Bon, alors c'est pas tellement le genre de musique qui colle avec la sélection de cette semaine. Vu que, bah, comme mardi, on travaille pas, vu que c'est l'armistice du 11 novembre.
D'accord, d'accord, ok. Okay.
Je me suis dit, je vais vous faire une spéciale film de guerre et de Michael Crichton, mais en fait, j'en ai pas trouvé, je te jure, j'en ai pas trouvé. Ah, bon, j'ai pas cherché à fond les manettes, vraiment, à donf, mais je peux dire que il y en a pas des masses, en tout cas. Hein. Le bonhomme, ben, laisse tomber, quoi. Bon, tant pis.
Mais ils ont raison, ils ont raison. Je me souviens que quand Newman était mort, on a eu L'Arnaqueur, on a eu plein de bons petits
films.
Ouais,
mais heureusement, quoi. Encore heureux, quoi.
L'argent, voilà. Crichton disparaît, y a rien.
Bah, ouais,
je trouve qu'il y a une justice.
Oui, de ce côté-là, oui, d'accord. D'accord. Alors, c'est ce soir sur Arte à 22h45. Ah
ouais. Tu mets une ambiance là, de guerre, c'est... je vais t'en mettre.
Ah ouais, là c'est Star Wars.
Non, c'est Apocalyptica.
Ah ouais, ouais. Alors, ce soir sur Arte à 22h45, La Tranchée des Espoirs de Jean-Louis Lorenzi avec Bruno Puzzulu et Christina Reali ainsi que Christian Vadim. Mais il y a également du côté documentaire, ce soir à 20h40, sur Toute l'Histoire, la chaîne Toute l'Histoire, la Première Guerre mondiale, ça c'est en plusieurs épisodes, hein, c'est les deux premiers épisodes avec Europe en feu, Les Racines de la Guerre. Demain, sur la chaîne Action, deux films de guerre, avec tout d'abord Le Retour vers l'Enfer de Ted Kotcheff de 83, ouais. À 20h40, avec Gene Hackman, Patrick Swayze, Robert Stack, Fred Ward, et vas-y, ça c'est du lourd mon gars quoi. Suivi à 22h35 de l'excellent film de Brian Newton en 70, De l'or pour les braves, avec Clint Eastwood, Telly Savalas. Là, il dit plus rien, là, tu vois. Il s'est calmé, là, du coup. Là, je l'ai mouché.
Non, en même temps, quand tu me dis le premier casting, je pouffe de rire, tu me donnes le second, je préfère me taire. Ou alors c'est un nanar, ou alors c'est un très bon film. Et non, c'est de l'or pour les braves.
C'est un Ted Kotcheff de l'époque de Rambo, ça, mon gars. Tu vois? C'est pas n'importe quoi quand même. Demain sur Toute l'Histoire, donc la suite de ce documentaire sur la Première Guerre mondiale à 20h40 avec Verdun, la Somme et les Dardanelles. Lundi, France 5 spécial, donc Première Guerre mondiale avec tout d'abord à 20h35 un documentaire La dernière bataille du soldat inconnu, suivi à 21h30 de 1914-1918, Le Grand Tournant. Mardi sur France 2 à 20h50 14-18, Le Bruit et la Fureur, également un documentaire consacré à la Première Guerre mondiale. Le jeudi, sur Cinéma Classique à 20h45, Patton de Franklin G. Schaffner, 70, avec George C. Scott, magnifique, et Big Nose, Karl Malden. Vendredi, enfin, sur TPS Star à 20h50, Lettre d'Iwo Jima, le film de Clint Eastwood en 2006. Bah, c'est un film de guerre, je suis désolé.
Oui, mais là, je dis chapeau.
Et sur toute l'histoire, donc vendredi prochain, la suite de la Première Guerre mondiale, le documentaire, l'histoire avec à 21h15, donc l'Amérique entre en guerre et la Russie est en révolution. Ah, ça, ça sent la fin de la guerre, hein, quand même, quoi. Enfin bon, on n'y est pas encore.
Ben donc c'était le supplément week-end du 9 novembre 2008 et comme le rappelle du sport, et d'ailleurs je vais faire un errata vis-à-vis du communiqué de l'Elysée, c'est bien les 90 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale, donc qui aura lieu après-demain, et pas les 100 ans, je sais pas ce qu'il aura pris. En dédicace tout à l'heure, Loïc Malnati, dessinateur et scénariste de la nouvelle série Apocalypse et aux éditions Daniel Maguin, qu'on a chroniqué tout à l'heure, les plus grands naissent posthumes. Très 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 bon bouquin, étonnant, graphiquement absolument génial. Donc c'est à partir de 15h à librairie album. Samedi prochain, chez Gibert, France Duchazot dédicacera Le rêve de Meteor Slims aux éditions Sarbacane et en même temps à librairie album. JD, la dessinatrice chinoise de My Way, sera présente et dédicacera donc sa série extrêmement poétique. Et le 29 et 30 novembre, il y aura le Toulouse Game Show et nous y serons en direct. Avec un habillage spécial, avec plein de groupies et tout ça, et j'espère que vous serez nombreux. Et s'il y a un auditeur qui sera prêt à poser la question qui tue, il aura droit à une belle surprise. Voilà. En attendant, c'est la fin du supplément week-end. JB, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
D'un Spirou passé aux oubliettes en faveur d'une Navis, d'un Chuck transformé en base SQL, d'un Xavier et ses problèmes de crop en 16/9e. D'une certaine Yvonne Strowski qui ajoute en quoi, hein, et plein d'Allemands avec des noms incompréhensibles. D'un Cavill avec un très bon pitch, d'un Deutschland Strikes Back Uber Alles, et plein de films de guerre sur 1418 présentés par un Alsacien.
Pas SQL, franchement, c'est geek ça comme résumé. Je suis désolé. Nom d'une tranchée, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans vos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.tk. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz en modulation de fréquence. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je ne sais pas trop pour l'instant, mais il y aura des sorties BD et des chroniques, bien sûr, et Thomas qui reviendra. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je vous laisse tranquillou avec du sport qui aura presque une heure complète. Voilà, il est 13h20 sur la poubelle des radios. Ciao, bye bye. Et d'ailleurs, sauf erreur, question à poser et à vérifier, à mon avis, sur le net. Je crois savoir que dans les romans de James Bond est un ancien de la Première Guerre mondiale. C'est un vétéran. À vérifier. Ciao, bye bye, à plus.